Les fleurs sont bien plus malines qu'il n'y paraît. Pour se développer et se multiplier, elles ont besoin de répandre leur pollen via les insectes et y arrivent. Jean Saraméa, historien géographe retraité, détaille les techniques des fleurs pour attirer ses pollinisateurs au micro de Guillaume Cangiano.
Bonjour à tous, bonjour Jean Saraméa.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes un ancien historien géographe et aujourd'hui, en cette belle journée d'été où les fleurs refleurissent...
Ah oui, c'est magnifique. Avec l'humidité de début juin, on a une épaisseur de prairies, de foin, une hauteur d'herbe et une variété de fleurs par rapport à l'an dernier où la sécheresse était déjà prégnante. C'est absolument magnifique.
Ces fleurs, justement, sont en train de produire du pollen. Et notre question, c'est comment ces fleurs attirent-elles les pollinisateurs ?
Voilà, alors c'est très varié. Je ne fais pas un cours de science, je suis géographe de formation, donc nous avions à l'époque, il y a 50 ans, des cours de professeurs de botanique qui venaient des facultés de sciences et qui nous donnaient un certain nombre de jalons extrêmement utiles. De quand datent les fleurs ? Alors les géologues nous donnent un chiffre bien précis, 214 millions d'années. C'est-à-dire le tout début de l'ère secondaire. Donc, il faut imaginer, puisqu'autour de Briançon, il y a eu pas mal de mines de charbon, que ce charbon provient des forêts du carbonifère, c'est-à-dire de l'ère primaire, forêts dans lesquelles il n'y avait pas de fleurs. Les fleurs, c'est l'ère secondaire, et les scientifiques disent que le génome de ces premières fleurs peut évoluer très rapidement. En quelques générations, la diversification est très rapide. Dernière remarque, avant de répondre directement à la question, certains disent, oui, mais lors des glaciations de l'ère quaternaire, tout a disparu dans le Briançonnais à cause du froid et à cause de l'épaisseur de la glace. Eh bien, maintenant, les botanistes disent que ce n'est pas totalement vrai. Les glaciers étaient dans le fond des vallées, dans les cirques de montagne également, mais beaucoup d'espèces se sont réfugiées, d'espèces de fleurs et peut-être d'animaux, se sont réfugiées dans les zones à différentes altitudes qui n'étaient pas englacées et qui ont pu survivre. Puis ensuite, les espèces de plantes et d'animaux se déplacent plus ou moins rapidement. Alors, les espèces de fleurs ont des stratégies extrêmement variées. Certaines plantes, certaines fleurs ont les deux sexes, mâles et femelles, sur la même fleur, ce qui est relativement pratique, mais qui nécessite de toute façon un pollinisateur. Les conifères, en général, c'est deux arbres différents. Un pied mâle, un pied femelle, ce sont les gymnospermes. Mais là aussi, il faut bien transporter. Alors le vent peut s'en charger, bien sûr, mais il faut transporter le pollen de l'un à l'autre. Alors, les recherches depuis quelques décennies vont dans les domaines d'explication suivants. Il est possible que le son joue un rôle. On a mesuré que les pétales de certaines fleurs entendaient, c'est un terme humain évidemment, entendaient le bruit par exemple des ailes des abeilles et la fleur se mettait très rapidement à produire plus de nectar. Le nectar sucré étant la récompense, toujours un terme humain, la récompense pour l'insecte pollinisateur. Il y a ensuite la couleur des fleurs. Certaines couleurs sont spécifiques, le bleu est le plus rare, mais enfin, il existe, les lins, certaines centaurées. Le bleu est très rare et n'est vu que par certains insectes, en particulier les insectes qui vont être utiles à la pollinisation de cette fleur. Ensuite, il faut imaginer que la pollinisation peut être très rapide. Des botanistes sont restés à l'affût des fleurs et quelquefois se sont aperçus qu'une seule fois dans la journée, l'insecte pollinisateur venait et jouait son rôle. Reste la question quand même, quels sont les moyens les plus fréquents ? Ce sont les parfums. Les parfums des fleurs, ce sont des molécules organiques qui sont synthétisées par la plante dans des cellules spécialisées. On sait par exemple que les roses produisent des centaines de molécules différentes, qu'on appelle les terpènes, les acides gras, les dérivés, les composés aromatiques, etc., qui sont en général volatiles, qui se vaporisent facilement, surtout quand la température s'y prête, qu'elle est plus douce. Et ces parfums arrivent aux cellules olfactives de nous, les humains, mais aussi des insectes. Ce qui attire les insectes ou l'insecte qui va polliniser. Le but des fleurs est, par une stratégie bien précise, d'attirer l'insecte qui va être utile à la poursuite de la vie de l'espèce. Les insectes, eux, vont détecter les parfums en général par leurs antennes. Et les fleurs ont des stratégies étonnantes. Quelquefois, le parfum ou l'aspect de la fleur, c'est pas la même chose, vont imiter l'odeur ou le comportement de la femelle de l'insecte en l'attirant. Donc, sachant aussi que les odeurs, c'est pas uniquement la fleur, ça peut provenir des feuilles, voire des tiges de certaines plantes. Au cours de l'évolution, ce sont les stratégies les plus efficaces qui ont été enregistrées et perpétuées et améliorées par les différentes espèces de plantes et de fleurs, chacune ayant donc son savoir-faire. Mais il est évident que les insectes jouent un rôle fondamental. Et comme disent les spécialistes, il y a 20, 30, 40 ans, quand on faisait un petit voyage en voiture, il y avait plein d'insectes écrasés sur le pare-choc, la calandre, le pare-brise, etc. Maintenant, il y en a très, très peu. Très, très peu. Et les insectes, c'est aussi la nourriture d'une bonne partie des oiseaux. En ce moment, on voit voler à tire-d'aile les hirondelles et surtout les martinets. Ils sont très utiles parce qu'ils se nourrissent de moustiques, de moucherons, etc. Mais il faut bien voir qu'il y a dans la nature toute une série d'équilibres ou de déséquilibres qui impactent des domaines de vie extrêmement variés, dont nous, parce qu'on ne va pas, nous, avec nos petites mains, aller polliniser toutes les fleurs des alpages, des pâturages et même de nos jardins, même si on sait le faire pour le maïs ou autre, on sait le faire, mais ça demande beaucoup de main-d'œuvre, une précision exceptionnelle, connaître également le calendrier de la vie de la plante. Voilà, un petit rappel de ce qui se passe surtout en ce moment autour de nous. Ce n'est pas magique, c'est tout à fait scientifique, mais évidemment, c'est fascinant lorsqu'on se penche sur ces mécanismes.
Merci, Jean.